Bonjour, nous sommes le lundi 14 octobre, il est 14h, vous écoutez Radio Campus et c'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
C'est cette année encore, 30 minutes avec ceux qui feront le monde de demain, des créateurs, des musiciens, des artistes. Et aujourd'hui, comme on n'a pas peur des paradoxes, on va dans l'avenir en partant à Padoue, au XVIIIe siècle et en musique. Bonjour David Plantier et Annabelle Louis.
Bonjour.
À vous deux, vous constituez le duo Tartini. Et pour commencer, une question que vous n'attendiez pas, comment est né ce duo ?
Eh ben, c'est grâce à Monsieur Tartini. Tout simplement, qu'on a eu la chance d'enregistrer pour un disque il y a 5 ans et qui nous a donné envie d'en savoir plus un peu sur son monde et d'explorer un peu tout ce qu'on pouvait faire en duo, violon et violoncelle, ce qui est assez peu courant à l'époque qui nous intéresse, l'époque baroque, donc le milieu du XVIIIe siècle.
Mais c'est-à-dire que vous êtes découvert tous les deux une passion commune pour ce musicien ?
Moi, c'est une passion qui remonte à très longtemps, quand j'ai commencé le violon quand j'étais enfant. Et après, quand je me suis spécialisé dans la musique baroque, j'ai toujours travaillé énormément Tartini et toujours eu envie de le jouer, l'enregistrer. Et on a eu cette opportunité il y a 5 ans. Et là, on sort un nouvel enregistrement consacré à Tartini. On a fini hier soir. 80 minutes de disque qui sortira l'année prochaine. Et voilà, et on a mis cette sonate sur notre disque Continuo Audio, qu'on adore, et on s'identifie à ce compositeur parce qu'il jouait lui-même le violon, un des plus grands violonistes du 18e, et il était accompagné par un violoncelliste qui s'appelait Vandini. Ils étaient compères tous les deux, ils parcouraient le monde en jouant du violon et du violoncelle, et voilà, ça nous a donné envie de les imiter.
Alors vous, David, comment vous définiriez la personnalité musicale d'Annabelle avec qui vous jouez ?
Une très bonne question.
Qu'est-ce que vous appréciez dans son jeu, dans le fait de jouer avec elle ?
Un mélange de flexibilité et de présence très forte et un son magnifique, une énergie et une douceur voilà, qui correspondent tout à fait justement à ce répertoire qu'on défend.
Et vous, Annabelle, comment vous définiriez son jeu à lui ?
David, il sait très bien faire chanter le violon et en même temps, il est extrêmement virtuose. Et il a toujours beaucoup d'idées, il écrit toujours des très beaux ornements. Donc voilà, j'aime beaucoup jouer avec lui.
Et quand on joue à deux, j'imagine qu'il y a quelque chose de particulier. Il y a un dialogue, quoi, comme dans la vie, comme là autour de cette... Enfin, nous, on est trois, mais...
Ouais. Mais c'est pas ce qu'on fait le plus souvent. Nous, on joue beaucoup dans des ensembles de musique baroque, donc des orchestres ou des ensembles un petit peu plus larges. Donc, se retrouver en duo, c'est une expérience très, très particulière. Et d'autant plus, c'est un programme qu'on a mûri pendant plusieurs années. Ça, c'est un long chemin. Et je pense qu'on a développé tous les deux un langage assez novateur dans le monde de la musique baroque. Et voilà, c'était vraiment une expérience très, très particulière et très enrichissante.
C'est toujours un peu difficile de savoir pourquoi on aime, mais pourquoi vous aimez Tartini ? Qu'est-ce qu'il a de plus qu'un autre ? Pourquoi lui et pas...
Simplement parce qu'il touche l'âme.
Direct.
Voilà, c'est très simple. Là, la musique, c'est d'abord fait pour ça, pour nous émouvoir. Et il a ce génie-là de pouvoir nous toucher avec quelques notes.
C'est la même chose pour vous, Annabelle ?
Oui, tout à fait.
Et ça a été dès la première écoute ?
Ben, moi, j'ai découvert Tartini avec David, en fait, en l'écoutant et en l'écoutant travailler aussi.
Et... C'est une découverte sans fin. Chaque...
Et alors, pardon, vous l'avez découvert comment ? C'est pas quelqu'un que vous connaît très bien, a priori ?
D'abord, non, effectivement. D'abord, dans les disques de mes parents, quand j'étais enfant, sur instruments modernes. Et puis, plus tard, quand je suis devenu musicien moi-même, j'ai cherché les partitions, les manuscrits qu'on pouvait trouver en microfilm à l'époque. Et, donc, il ne m'a jamais quitté, en fait.
Est-ce que le personnage vous intéresse ? Parce qu'en préparant l'émission, j'ai lu qu'on l'appelait le Saint-Augustin de la musique, parce qu'après une jeunesse agitée, il est quasiment tombé dans la mystique, et que non seulement il faisait du violon, mais il pratiquait aussi l'épée. C'est un personnage qui, le personnage en tant que tel, est déjà fascinant.
C'est un personnage très, très complexe, très riche, qui représente bien l'époque des Lumières. Il a une vision de... Déjà, au violon, il était un peu obsessionnel. Un jour, il a entendu un de ses collègues qui s'appelait Veracini, il a été tellement impressionné par son niveau que, et en même temps dégoûté. Et donc il s'est retranché dans une villa pendant un an. Il a plus fait d'apparition publique et il a juste travaillé son violon. Donc ça donne une petite idée de la mentalité. Et après, il a vraiment développé dans une période un petit peu de transition où le langage musical n'est pas très clair. Il a réussi vraiment à trouver une façon de s'exprimer extraordinaire, très personnelle. Comme je vous disais, basée sur l'expression et les émotions. Et il était effectivement un peu mystique, persuadé que la musique, ce n'était pas juste pour faire plaisir, mais il y avait aussi un côté divin, un côté...
Alors on va écouter « Dieu arrive ». Alors là, on écoute un extrait de la sonate pour violon et violoncelle, oui, en sol majeur, de Tartini. Alors, pouvez-vous nous parler de ce morceau ? Qu'est-ce qu'il
c'est
a ?
C'est un morceau très particulier.
Qui est très beau.
Oui, très beau. Donc il y a cette basse qui est un petit peu comme une marche, un mouvement perpétuel, assez simple. Et puis le violon qui a un langage assez ornementé.
Très chanté.
À la fois très chanté, mais aussi très volubile, très, très riche. C'est un des rares exemples où Tartini a lui-même écrit des ornementations avec des trilles, des arpèges, de toutes sortes. C'est à la fois savant et touchant, enfin, ça va droit au cœur.
C'est étrange parce que quand on l'écoute, on peut le remettre peut-être un peu plus fort. Ça a l'air très très simple, que la partie de violon. Techniquement, c'est très complexe.
C'est déjà assez évolué, ouais.
Simple, ça ne veut pas dire pas évoluer. Simple, ça veut dire que c'est facile c'est à entendre.
Ouais, ouais. Tant mieux, c'est facile à entendre.
On n'entend pas du tout la difficulté technique, on ne l'imagine pas. Une mélodie assez fluide, assez...
Ça coule, voilà.
C'est la musique qui coule, inexorablement. Et donc vous, Annabelle, c'est ça, j'espère que je ne me trompe pas de prénom, oui, Annabelle Louise, vous accompagnez, donc c'est vous qu'on entend derrière, qui rythme.
Voilà.
C'est quasiment un rôle, vous rythmez aussi la musique.
Voilà, je fais aussi ce battement de cœur qui est en continu. Alors, là, c'est un mouvement où je fais juste cette basse, mais après, dans le disque, on a vraiment cherché à varier les basses, justement, à essayer de faire des imitations ou de remplir avec des accords.
Là, elle vous aide quand elle...
Énormément.
Par
c'est
son
elle,
rythme,
c'est
elle vous donne,
donne
le rythme.
Le caractère, en fait, de la pièce.
Vous,
si
vous
on
ne
trouve pas juste
champ.
La bonne balance, le bon swing, un petit peu, la pièce, elle ne marche pas. C'est... Donc c'est essentiel qu'elle ait juste le bon tempo.
On va en remettre un petit peu, allez. Donc c'était un extrait de la sonate pour violon et violoncelle, je me répète, en sol majeur de Tartini, qui est le premier extrait du CD que vous sortez là, qui vient de sortir
demain.
Ces jours-ci, qui sort demain.
Ouais.
Donc sur ce CD, donc vous êtes dans ce qu'on appelle la musique baroque. Aujourd'hui,
ouais.
Il y a un véritable renouveau de la musique baroque, vous l'accompagnez.
Ouais.
Comment vous l'expliquez ? C'est quelque chose qui est arrivé au conservatoire avec des nouveaux professeurs ?
Maintenant oui, mais c'est un phénomène qui est quand même pas tout neuf, ça fait quand même 40 ans que ce mouvement a
été
initié, voilà, un tout petit peu de retard.
Mais je trouve qu'il y a vraiment, quoi. C'est...
Du coup, il y a 40 ans, effectivement, il n'y avait pas de conservatoire, c'était pas enseigné, c'était un peu empirique. C'est certaines personnes qui sont allées à la recherche de traités anciens, qui se sont frottées à des instruments qui étaient montés différemment, par exemple en ce qui concerne les cordes, comme nous. On jouait avec des cordes en boyau, avec des archets aussi complètement différents que les archets modernes.
Aujourd'hui, vous avez les instruments pour...
Voilà, on a les instruments anciens.
Tout à fait. Et puis, il y a beaucoup de... Il y a des luthiers qui refont des instruments, comme à l'époque, qui font des cordes en boyau, des archets. Beaucoup de musiciens se mettent à faire des archets aussi.
Parce qu'eux, ils ont les plans pour... Enfin, les luthiers ont les plans pour savoir faire ces instruments-là. Il y a des traces de comment on fabriquait des éléments à l'époque.
Et puis
donc
même,
on reprend.
Ils peuvent s'inspirer de tableaux...
Et puis ils peuvent copier simplement les instruments anciens qui ont survécu.
Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait une particularité dans ce CD, et notamment dans le titre qu'on vient d'entendre, c'est que vous faites jouer ensemble un violoncelle et un violon. Voilà. C'est-à-dire que historiquement ça ne se faisait pas.
Si, on pense que ça s'est fait, mais dans justement
c'est
le
vous
renouveau
qui avez apporté
de la musique baroque, ça ne se fait pas tellement. Parce qu'à l'époque, la plupart de la musique était accompagnée avec un instrument harmonique, donc avec lequel on faisait de la basse continue. Donc l'instrument harmonique, c'est le clavecin ou l'orgue ou le luth.
Et donc c'était violon et clavecin ?
Voilà, par exemple.
Ou clavecin et violoncelle. En fait, il y avait un groupe qui constituait le continuo, qui était souvent soit violoncelle, clavecin, orgue.
Donc voilà. Notre titre, Continuo Adio, c'est un petit peu un clin d'œil, c'est un petit peu ironique. Ça, évidemment, c'est pas débarrassé du continuo, donc de l'instrument harmonique comme ça, du jour au lendemain. Mais c'est pour redonner un petit peu au violoncelle aussi sa juste place et montrer que les instruments se sont émancipés un petit peu sous l'impulsion, entre autres, de Tartini, qui est l'un des premiers à indiquer qu'on peut jouer une sonate pour violon et violoncelle.
Donc ça, ouais, ça, vous l'avez trouvé, écrit.
C'est écrit, noir sur blanc.
Mais donc là, vous avez dû faire une transcription ou
on est parti.
Vous avez trouvé les partitions
d'un manuscrit, effectivement, qui est là à la Bibliothèque nationale à Paris. Donc, il spécifie bien violoncelle avec violoncelle obligé et écrit à la main. Donc voilà, on a fait une transcription.
Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert depuis que je fais cette émission, c'est que les musiciens classiques passent beaucoup de temps en bibliothèque à rechercher des partitions.
Pas tous, mais certains.
En tout cas,
ceux
qui s'intéressent au patrimoine, en tout cas.
Voilà. C'est un des côtés du renouveau baroque, c'était justement de passer du temps dans les bibliothèques, chercher des musiques un peu moins connues et de savoir comment les jouer. Oui, c'est passionnant. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans les bibliothèques à faire des découvertes comme ça.
Alors là, sur le CD, on a écouté Tartini. Il y a beaucoup d'autres musiciens sur ce CD. Comment vous avez sélectionné ?
Alors, on a d'abord voulu faire une partie avec des duos. Donc, vraiment, les premiers duos qu'on trouve pour violon et violoncelle.
Donc là, qui sont écrits pour les deux instruments.
Voilà, qui sont vraiment écrits pour les deux instruments, comme Plati, Bonporti. Et puis sinon, l'autre partie du CD, c'est vraiment ces sonates de violon. Donc Tartini et les élèves de Tartini. Ouais.
Et c'était difficile de choisir ceux-là plutôt que d'autres ? Comment vous avez fait votre choix ?
Disons, Tartini était la figure un petit peu de proue du disque, donc c'est autour un peu de lui. C'était difficile parce que Tartini a eu une école, c'était un maître très très important au 18e, un des premiers à attirer des violonistes de toute l'Europe pour venir étudier avec lui. Et donc choisir parmi ses élèves, c'était assez compliqué, mais on est tombé. Moi, j'ai fait des tas de découvertes en réfléchissant à ce programme. Et finalement, on a trouvé une bonne balance entre les duos et les sonates accompagnées au violoncelle.
Et vous avez des frustrations dès que vous n'avez pas pu mettre
disque fait 75 minutes, je crois, donc non, mais on est bien content de l'équilibre.
C'est facile de trouver une maison de disque qui accepte ce pari-là?
Non, c'est pas facile. C'est pas facile.
C'est
du tout.
Projets que vous menez sur très longtemps. Vous avez quelqu'un qui vous aide, un agent ?
On a un agent qui nous aide depuis récemment, mais ça existe quand même des gens à la fois qui organisent des concerts ou qui sont producteurs de disques, qui ont cette curiosité du répertoire, qui font autre chose que le répertoire le plus connu. Et voilà. Moi, ça fait 15 ans que je fais des projets comme ça. Qui défendent des répertoires ignorés et méconnus. Et j'ai eu la chance de trouver des gens qui m'accompagnent.
Et vous trouvez que c'est plus dur qu'avant ?
Oui, c'est plus dur qu'avant.
Dans un phénomène.
À cause de la situation économique qui fait qu'on prend moins de risques pour produire des choses qui se vendront peut-être moins. Donc,
et après, pour le jouer sur le jouer
sur scène,
le public,
c'est
difficile
c'est
aussi
pareil,
parce que
c'est plus difficile, ouais.
Parce qu'il y a un risque, parce que les festivals sont plus frileux.
Il y a beaucoup de monde aussi, simplement. Comme le maintenant la musique ancienne est enseignée justement en conservatoire, c'est très facile. Donc il y a de plus en plus d'ensembles et de moins en moins de place.
Vous avez assez de comment dire, vous avez assez de temps pour faire tout ce qu'il faut faire finalement. Parce
que j'imagine
vous avez
très,
des activités à côté, vous avez des activités
d'enseignement.
On joue dans des orchestres.
Je suis premier violon dans un grand ensemble français, le Concert d'Astrée.
Un projet comme ça, par exemple, c'est combien de temps entre le moment où vous avez eu l'idée, le moment là où
c'est
le CD arrive ?
C'est énormément de travail. C'est, je dirais, 4 ans à peu près de conception du programme. Ouais. Après, le nombre d'heures, par exemple, à chercher les ornements, à réfléchir à comment on va construire notre son, par exemple, notre sonorité à deux.
Plus là, j'imagine qu'il y a un technicien qui intervient au moment de la prise de son.
Bon, ça, c'est les 4 jours de l'enregistrement. Mm-hmm. C'est vraiment la partie émergée de l'iceberg, c'est la toute fin. Mais le travail de conception, c'est énorme.
Oui, donc contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, des musiciens classiques ne passent pas leur vie à jouer de la musique. Il y a beaucoup de travail à côté.
Mais ça, c'est en même temps, c'est notre passion. Donc c'est là qu'on se fait le plus plaisir, finalement. C'est de concevoir un projet qu'on porte au fond de nous. Et voilà, de voir que ça aboutit sous forme de disque, c'est magnifique.
Alors là, on vient d'entendre un tout petit extrait de Platy. Vous l'avez trouvé où ?
C'est vraiment un des tout premiers vrais duos pour violon et violoncelle, donc, où le violoncelle a un vrai rôle à part entière, à part égale avec le violon.
Ouais, là, il a une partie chantée lui aussi, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, vraiment, on se répond.
C'est pas un accompagnement.
Les deux instruments sont égal à égal.
Et Platy, c'était quelqu'un...
C'est un élève du précédent, non ?
Non, c'est rien à voir avec Tartini. Bon, c'est un peu un contemporain. Et comme beaucoup de musiciens, il s'était expatrié en Allemagne. Il était engagé par un prince à Würzburg, en Allemagne. Et ce prince aimait beaucoup jouer du violoncelle en amateur. Il aimait beaucoup le violoncelle. Donc c'est pour ça qu'on a ces tout premiers duos. Me by
Quelle belle cymbale, c'était Pottery qui chantait The Craft, un extrait de leur premier album.
La Relève, sur Radio Campus Paris.
Alors, on est toujours avec David Plantier et Annabelle Louis qui viennent de publier, enfin, je ne sais pas si on publie un disque, ou qui viennent de publier un disque, en tout cas disque, un CD, parce qu'il y a même un disque, Je trahis mon âge, consacré à la musique baroque et notamment à Platini. Là, on est. Platini.
C'est le prochain disque.
Ça, c'est le prochain disque, voilà. Donc là, ce qu'on vient d'écouter, on en est très loin. Je voulais juste savoir si vous écoutiez de la musique contemporaine, est-ce que ça vous intéressait ? Pauvre Platini.
Contemporaine, on en a même joué, même avec nos instruments anciens, avec cordes en boyau. On a eu l'occasion de faire des projets qui mélangeaient un peu contemporain et baroque.
Mais par exemple, le rock, enfin,
du rock, ouais, bah, l'occasion du jazz.
L'électro, des choses comme ça, ça vous intéresse ou vous vivez dans votre monde complètement?
Non, bah, on a quand même des enfants qui nous maintiennent en contact avec le monde réel.
Oui, vous, David Plantier, j'ai lu que vous aimiez les répertoires peu connus, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Mais vous, donc, les nouveautés qui vous intéressent, c'est les nouveautés du passé, pas celles d'aujourd'hui?
Mais il y a tellement à découvrir, tellement de beauté à découvrir dans le passé, dans ces musiques qui dorment sur des étagères ou dans des microfilms. C'est inépuisable.
Alors vous, Annabelle Louis, vous avez de votre côté joué avec un musicien de jazz qui s'appelle Louis Clavis. J'espère que j'ai bien prononcé son nom.
Oui,
c'est pas voilà. Est-ce que ça a changé votre manière de jouer?
Ça a changé vraiment ma liberté sur l'instrument, oui.
Et donc même dans la manière dont quand vous jouez du baroque, le fait d'avoir joué du jazz, vous jouez
plus baroque
de la même façon.
Ça fait toujours du bien de se libérer aussi de certaines contraintes et d'aborder ce répertoire et d'apprendre à faire des improvisations free, parce que c'est vraiment du jazz free qui fait.
On fait souvent le parallèle entre jazz et musique baroque, parce que dans le baroque, il y a une part d'improvisation, d'ornementation, qui est assez présente dans notre disque. Il y a plein de moments, à la fin du tout premier morceau qu'on a passé, là, de Tartini, il y a une cadence que j'ai un petit peu improvisée en m'inspirant d'un de ses élèves. Donc il y a un parallèle entre les deux.
Alors vous aimez trouver des vieux morceaux, des vieux morceaux, de retrouver des vieilles partitions plutôt, devrais-je dire. Annabelle Louis, j'ai lu que vous travaillez sur le travail de la sonorité des cordes avec Hervé Niquet et le concert spirituel. Vous êtes tous les deux des chercheurs.
Bah oui, on teste différents montages sur les instruments.
Alors ça veut dire quoi?
On cherche vraiment un son et donc après il faut que notre instrument corresponde. Donc avec des luthiers, on travaille, on peut changer un chevalet, on peut chercher des cordes différentes, des diamètres de cordes différentes et ainsi on peut trouver la meilleure sonorité qu'on puisse avoir avec notre instrument.
Et quand vous dites la meilleure sonorité, c'est par rapport
c'est par rapport à ce
à
qu'on imagine
oreille, hein.
Et puis par rapport à ce qu'on veut faire avec les autres musiciens aussi.
Vous travaillez aussi sur ça, vous, David?
Oui, totalement. On a l'idée du son. Et c'est un peu pour ça qu'on spécialise en musique baroque. C'est pour rechercher une sonorité perdue qui a été un petit peu dénaturée par les cordes en métal et les pianos modernes. Et des choses. Donc quand on fait de la musique baroque, on s'intéresse à ça. Et un instrument à cordes, un violoncelle, c'est finalement que du bois sur les... une caisse sur laquelle est tendue des cordes en boyau, donc c'est très empirique, on ne sait pas vraiment comment ça marche. Donc voilà, il faut chercher effectivement.
Ça vous rapproche aussi beaucoup de Tartini, qui lui-même a beaucoup travaillé sur l'instrument et qui à l'époque a innové sur le violon. Aussi, je ne savais pas avant aujourd'hui, je sais en préparant, j'ai découvert ça.
Ouais, et en particulier sur l'archet. Parce que là, pour bien jouer Tartini, il faut non seulement évidemment savoir faire les notes, mais c'est surtout une question de technique d'archet. Donc, et lui, il a fait faire des modèles d'archets particuliers qui n'existaient pas et qui permettent justement d'avoir ce mélange de chant et de virtuosité.
Comment vous expliquez qu'on ne les connaisse pas plus, ces musiciens, ces personnes? Parce que visiblement, lui, sa vie est passionnante, c'est un personnage très romanesque.
Il y en a quand même pas mal comme lui, qui finalement on connaît le nom, on connaît une pièce ou deux. Si on regarde sur YouTube, vous aurez 500 versions de la sonate du Trio du Diable.
Alors il y a toute une histoire mystique autour de ça, c'est un cauchemar.
Oui, il aurait rencontré le diable dans un rêve et qu'il lui aurait inspiré une musique un peu diabolique.
Forcément, j'espère.
Et il a cherché en se réveillant à noter cette musique, qui est d'ailleurs extraordinaire. Mais il y a 150 autres sonates qui sont aussi belles. Et donc il y a beaucoup de compositeurs qui souffrent de ce symptôme un peu...
Ils ont en gros un succès qui cache tout.
Oui, un succès un peu dénaturé qui cache la véritable identité du compositeur.
Alors l'un et l'autre, on l'a déjà dit, vous enseignez. Est-ce que c'est une partie importante? C'est d'abord jouer, trouver, découvrir, jouer, faire la recherche et transmettre?
Ça, oui, tout à fait. Enfin, c'est important de pouvoir transmettre. Mais après, c'est vrai que notre métier de musicien voilà, nous laisse un peu de temps pour ça. Mais le principal, c'est qu'on essaie quand même de jouer au maximum.
Ouais. Oui, puis on apprend beaucoup sur notre propre jeu en essayant de le faire découvrir à nos élèves.
Alors après ce CD, quels sont vos prochains projets? J'aurais dû préparer. Prochains projets.
Et ben avec la sortie du disque, là, on a des belles...
Des concerts, des dates.
Des concerts, des dates. Après-demain, on joue à la librairie du BHV, par exemple.
Et on a un concert de sortie. Soit après-demain du jour de l'enregistrement, mais c'est pas
vrai.
Grave.
Donc ça sera passé depuis longtemps. Et ben dans trois jours, sinon il y a le concert de sortie du disque, puisque c'est le 17 octobre.
Ah, parfait.
Salle Corto à 20h30.
Ouais. C'est où la salle Corto? C'est pas grave, on cherchera, on mettra tout sur le site. Non, c'était pas un piège. Hein. Vous allez continuer à explorer le continent baroque, vous avez envie d'aller voir d'autres choses?
On a toujours envie d'aller voir autre chose. Déjà, dans notre programme, on va jusqu'au début du romantisme, quand même, avec la dernière pièce du disque des cousins Romberg. Donc, le disque couvre quand même 80 ans de répertoire. Donc, on n'est pas bloqué non plus dans nos habitudes baroques.
Et vous jouez tous les deux dans un orchestre, c'est ça?
Oui, dans plusieurs orchestres, plusieurs formations de musique de chambre.
Vous avez beaucoup de choses à faire.
On a beaucoup de choses à faire.
En fait, on n'imagine pas du tout la vie des musiciens classiques.
C'est très riche.
De cette façon, en fait, c'est très très riche, très dense, j'ai l'impression. Merci beaucoup d'être passé par le studio.
Avec plaisir.
Il y avait un truc très agréable avec vous deux, c'est que vous vous écoutez, vous vous parlez, je ne sais pas si c'est la musique, mais c'était formidable. Voilà, vous venez d'écouter La Relève, je tenais à le dire. Non, mais c'est rare quand il y a deux invités, c'est pas toujours le cas. Donc vous venez d'écouter La Relève, c'était déjà le troisième épisode de la saison 4, l'émission était réalisée par Antonin, elle était préparée par Christophe, on se retrouve dès la semaine prochaine, c'est une nouveauté de 2019, pardon. Et en attendant, vous pourrez retrouver toutes les émissions passées sur le site internet de Radio Campus Paris, émission La Relève, voilà, merci, c'est parfait, au revoir Antonin.